Et oui, vous avez reconnu ce générique qui nous accompagne depuis maintenant 3 saisons. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Et oui, c'est parti pour une heure d'actualité théâtrale sur Divergence, Divergence FM et non plus Divergence les Flots, comme ça a été le cas quelques semaines précédemment. Je suis avec Robin qui va m'accompagner pendant cette émission. Bonjour Robin.
Bonjour tout le monde.
Est-ce que tu es en forme ?
Oui, je sors d'une course d'un marathon de vélo, mais ça va, je vais m'en remettre.
Alors, nous allons commencer tout de suite par le premier plateau. Il s'agit d'un spectacle qui se joue au Théâtre des 13 Vents. Le spectacle s'appelle Corpus Christi et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Tania Torrens. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et Annick Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Alors, loin de Corpus Christi, c'est un spectacle en 2 parties, un spectacle donc de Christophe Pellet, mis en scène par Jacques Lassalle. Donc il y a 2 parties, il y a un entracte au milieu, et c'est un spectacle historique, puisque nous allons à la fois en 2005 pour la première partie, et nous repartons en 1947.
Oui, c'est ça. En fait, il y a un personnage qui s'appelle Anne, qui est le personnage central, qui adore les vieux films et tout ça, et qui un jour tombe amoureuse sur un écran à la Cinémathèque d'un acteur, Richard Hart. Cet acteur a vraiment existé, donc c'est lui qu'on voit, parce qu'il y a évidemment des projections dans le spectacle. Et du coup, sa mémoire ou son imagination l'a fait basculer en 1947 à Hollywood, quand ce jeune acteur arrive pour faire carrière. Et en 1947, on est en plein maccartisme. Donc voilà, la droite qui a peur du communisme et qui craint énormément tous ces émigrés juifs allemands, dont Brecht, dont tous ces gens-là, qui pendant la guerre étaient venus se réfugier. Voilà.
Et alors, il faut dire que...
Donc historique.
Anne, ce personnage, Anne Wittgenstein, va mener une enquête. Et
elle est étudiante en cinéma.
Elle n'est pas étudiante, elle est carrément
agiographe,
chercheuse pour le CNRS. Elle écrit des biographies. Elle est très 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 spécialisée et complètement cinéphile. Fille, on peut dire, pour paraphraser Christophe Pellet, cinéphile, c'est cinéphile. Et toute l'histoire, c'est toute la pièce, ça va être cette enquête. C'est elle qui va mener l'enquête jusqu'au bout. Elle va rencontrer des personnages, elle va faire surgir du passé tout ce monde d'Hollywood à la fin des années 40. Et dans la deuxième partie, ça va complètement basculer. On va se centrer sur un autre personnage.
Enfin, personnage qui existe dans la première partie.
Oui, ce personnage existe, ce fameux Richard Hart existe dans la première partie, mais après il disparaît. On sait que après 49, il n'a plus rien. Enfin, 49-50, il disparaît complètement.
Il a fait 4 films.
Il a fait 4 films qui auraient dû être importants et déclencher une carrière. Et puis il y a une disparition mystérieuse qui met tout son imaginaire en transe. Et donc on s'aperçoit que... La deuxième partie, dans la première partie, va naître un personnage joué par Marianne Bassler. Ce personnage d'Anne Wittgenstein est joué par Sophie Tellier, qui est la chercheuse qui va tomber amoureuse de Richard Hart, donc ce fameux jeune homme, ce fameux jeune premier. Et dans le Norma Westmore, donc, est une fille qui, elle aussi, dans les années 40, est tombée amoureuse de ce type. Et on va la retrouver, on va trouver ce cheminement qui va durer beaucoup plus longtemps, car ça va jusqu'en 2025, jusqu'à une période qui n'est pas encore arrivée, d'anticipation, jusqu'en 2025. Et on va la retrouver dans la seconde partie. On quitte Hollywood et on est à Berlin-Est.
À Berlin-Est.
Où elle a émigré, on va retrouver aussi, on va trouver toute une saga d'exilés allemands à Hollywood, Bertolt Brecht.
Et comme ils auront été dénoncés par quelqu'un, je laisse le quelqu'un en suspens parce que c'est un peu le suspense justement, comme ils auront été dénoncés, ils ont tous été obligés, au FBI donc, ils ont tous été obligés de s'exiler.
De fuir.
Et ce personnage qui est d'origine allemande mais une immigration beaucoup plus lointaine, enfin ses grands-parents, ses parents, va choisir de partir dans un pays communiste à l'époque et la RDA.
Elle va suivre Brecht, en fait.
Non, parce que Brecht n'a jamais été réellement... Il est parti en Suisse, il a mis beaucoup plus de temps pour aller en Allemagne, en fait. Et il n'a jamais été en Allemagne de l'Est, je ne crois pas.
En pointillé.
En pointillé, voilà. Mais il ne s'est jamais installé, quoi.
Son compte en banque était à l'ouest.
À l'ouest.
On va revenir un petit peu sur la période macartiste, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes gens
c'est
qui sont à l'antenne.
C'est ça qui est historique.
Alors la RDA
est historique, parce que le mur est tombé en 1989, et c'est vrai que pour des jeunes gens comme vous, eh bien, vous n'étiez pas nés alors.
Robin, on va te laisser la parole, puisque tu es le plus jeune d'entre nous.
Oui, c'est bien.
Qu'est-ce que le macartisme, ça évoque pour toi?
Alors le macartisme, la chasse aux sorcières, The Red Scare, la peur des rouges, c'est une période qu'on étudie quand même beaucoup au lycée.
Ah bon?
Oui.
Ah, très bien.
T'as eu un bon lycée alors?
Non, parce que comme c'est une histoire tellement américaine que je doutais un petit peu que...
Ah mais vous savez, les programmes sont très américanisés aussi.
On c'est vrai.
On beaucoup d'histoire de l'Amérique.
Ah là là, McCarthy serait content.
On l'étudie en quelle classe
On l'étudie en première et on l'étudie aussi en terminale. Mais il me semble que le McCarthyisme, on le voit en terminale dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, d'accord.
Oui. Mais du coup...
On survole.
On survole. Ah mais en terminale, le programme, on le survole de toute façon.
Oui.
Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'elle aborde d'autres aspects de l'histoire, des aspects qu'on ne nous enseigne pas justement, des personnages qu'on oublie, et à la fois elle nous la transmet d'une autre manière. Ça ne va pas être une transmission froide. Ici, il y a les émotions qui rentrent en jeu, et du coup, ça nous permet de fixer des caractères, de fixer des personnages, oui. Et de voir du coup des aspects de l'histoire que nous, on ne nous enseigne pas.
Oui.
Et par exemple, cette histoire de Bertolt Brecht, moi, on la connaissait pas. Bertolt Brecht, c'est un personnage qui est très important. Ses pièces de théâtre ont eu un écho qui a été retentissant. Et pourtant, l'histoire, on la cantonne dans ce qu'ils appellent l'histoire pure. Et du coup, on a un manque de transdisciplinarité que le théâtre nous rend en faisant une fusion de beaucoup de disciplines.
Vous ne saviez pas, par exemple, que pour gagner sa vie, quand il s'est exilé, évidemment, en tant que juif, surtout communiste, qu'il est parti de l'Allemagne, vous ne saviez pas qu'il avait gagné sa vie à Hollywood en étant scénariste?
Absolument pas.
Brecht, scénariste à Hollywood, c'est quand même un peu...
Oui, totalement.
C'est la surprise du chef, oui.
Mais il parlait, Brecht, de comédiens qui avaient travaillé à Hollywood, et il a parlé longuement de Charlton, par exemple.
Oui,
il y a eu
bien
pas
sûr,
mal d'essais sur Charlton.
Vous savez, le texte que dit Bernard Bloch, qui joue Brecht, donc, ce texte, en fait, Pelé a beaucoup pris, et il le reconnaît, enfin, il n'a pas essayé de faire une imitation, c'est beaucoup, beaucoup les vraies paroles de Brecht.
C'est pas un extrait du Petit Organon, quelque chose comme ça, je crois.
Dans son journal, peut-être, voilà,
journal
donc c'est... et ça, c'est l'intelligence de Christophe qui, dès l'instant où il fait dialoguer Brecht, enfin parler beaucoup en monologue du reste, enfin en tout cas, c'est sa vraie langue.
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier pour cette période du macartisme qu'il y a une liste noire des gens qui étaient interdits de travailler. Il y a même des écrivains qui ont fini en prison. Je pense notamment à Daniel Lamette. qui a été brisé à la suite de cette histoire. Donc c'est
et
pas...
le drame de ce cinéaste Cazan, immense cinéaste, qui lui a été soupçonné d'avoir dénoncé ses camarades.
Oui, mais
il y en a eu plusieurs. Il s'en est toujours défendu, mais bon, il a toujours porté ça... Après, il a fait une
C'était
très belle
sa
carrière,
croix.
Mais ça a été
C'était
sa croix, hein, vraiment.
Mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu Edward G. Robinson aussi qui a été obligé de faire sa repentance. Il y a même Gary Cooper. Il y a eu plusieurs comédiens de l'époque qui ont été embêtés.
Ils se sont un peu reniés. Bon, Cazan dit, mais que les noms qu'il avait pu donner, de toute façon, c'était des gens extrêmes que tout le monde savait et qui étaient déjà sur les listes et tout ça. Il n'a jamais dénoncé vraiment personne qui n'était pas connu, enfin, par le FBI, mais... C'était une sale période.
C'était vraiment une sale période, une période vraiment très lourde. Et d'ailleurs, il y a
ils vivaient comme une guerre, vraiment, oui.
Et d'ailleurs, il y a un personnage donc, dans la première partie qui est très trouble, c'est l'agent du FBI qui essaye de pousser le comédien vers la délation, etc.
Bien sûr. Ce fameux Richard Hart, effectivement, quand il arrive à Hollywood, va être très, très vite abordé par un homme assez beau, assez très, très américain, extrêmement de droite, et qui va quand même le pousser à rejoindre... les propositions de droite, enfin, de ne pas se laisser engluer par cette bande de fous allemands, juifs et communistes.
On va faire une petite pause, on va revenir un petit peu dans l'ambiance de l'époque 1947 avec une petite chanson de Duke Ellington, Fit Boone.
Thank you.
Divergence FM, le 93.9, l'émission Vendredi Théâtre. On vient d'entendre un petit Duke Ellington, Feed Boone. Et nous sommes toujours avec Tania Torrance et Annick Le Goff pour parler de la pièce Corpus Christi, une pièce donc de Christophe Pellet, mise en scène par Jacques Lassalle, qui se joue actuellement au Théâtre des 13 Vents. On va aborder maintenant la deuxième partie de la pièce. La première partie se passait à Hollywood en 1947. Et maintenant, nous sommes en RDA, en 1989. Nous suivons donc un des personnages que l'on a connu en 1947, voilà. Donc à Hollywood. Et nous la retrouvons donc à Berlin en 1989.
Dénoncée, on répète un peu, mais dénoncée par le macartisme, elle a dû aller se réfugier, elle a fait sa vie. L'Allemagne de l'Est, Berlin-Est. Et la pièce commence, c'est le jour de la chute du mur. On est en 1989, 9 novembre, je crois. Mmh. Voilà.
Et... Moi, j'étais né, donc je me souviens.
Voilà. Et on la retrouve là, évidemment, vieillie, changée. À Hollywood, elle était belle, splendide, plus belle que... C'est Marianne Bassler qui joue le rôle. Mm-hmm. Plus belle que Lorraine Bacall. Là, on la retrouve un petit peu vieillissante, affaiblie, et dans un costume qui est moins glamour.
Et elle a une vie difficile, visiblement.
Une vie difficile, oui. Et une de ses amies à Hollywood vient la voir parce que justement le mur a sauté, donc elle a pu rentrer. Ça fait déjà très longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Et c'est Tania qui joue le rôle et je lui laisse la parole.
Eh bien, j'essaie de venir chercher Norma, la fameuse Norma donc, qu'on suit depuis Hollywood. J'essaie de l'emmener, je viens la chercher et pour passer de l'autre côté. Et je lui amène un rapport que le FBI m'a envoyé à ma demande, qui lui raconte ce qui s'est passé.
Qui les a tous dénoncés.
On va pas le dire.
Et comment
qui...
ça, non, s'est, comment ça s'est passé une... voilà. Et Kathleen, donc mon personnage, trouve une femme complètement emmurée dans son rêve. Elle ne veut pas repasser à l'Ouest. Elle ne veut pas aller à l'Ouest. Elle ne veut pas abandonner les valeurs qu'elle a adoptées, qu'elle avait avant, et elle est absolument désespérée de la société de consommation qui est en train d'envahir Berlin, de ce mur qui s'écroule, non pas de la liberté retrouvée, mais de la consommation qui devient frénétique, et elle est complètement murée. Mmh. Et voilà, donc il va y avoir une scène où je vais lui lire ce rapport, et ça va introduire un nouveau flashback où on va découvrir ce qui s'est passé.
Là, donc,
40 ans auparavant.
On retourne à Hollywood.
On retrouve toute la bande
exilés qui faisait la première
à une soirée. Et ensuite, et aussi, on retrouve autres personnages qui sont décisifs dans ce qui s'est passé. Voilà.
Et après,
on ne veut rien vous découvrir.
Non. Elle va découvrir après un autre rapport.
Et alors, non, mais surtout, il se trouve que Marianne, que Norma Westmore, donc, vit à Berlin-Est avec un jeune homme, un jeune Allemand, qui est devenu son tendre ami, là, une relation
un élève,
probablement, qui est un élève à qui elle donnait des cours clandestins, des cours d'anglais. Et il se trouve que ce Moritz ressemble étrangement à Richard Hart, et il est joué par le même acteur d'ailleurs,
qui s'appelle Brice Hilaire.
On va citer tout le monde tout à l'heure.
D'accord.
De toute façon.
Bon, bah, très bien. et voilà. Et donc.
La fin de la pièce, c'est d'un seul coup cette femme donc qui. On n'est plus en 89, on est à peu près 10 ans après.
On est en 2025.
Non, pas encore.
Pas
on
encore.
Est en 2001,
ah oui, c'est vrai.
Enfin, en 2000, et elle va venir. Dans ce qui est anciennement les archives de la Stasi, parce qu'on lui a dit qu'elle avait un dossier. Et là, elle va apprendre que pendant toutes les années où elle était en RDA, elle était également surveillée.
Voilà, je m'aperçois que l'heure tourne. Donc, on va rappeler que le spectacle s'appelle Loin de Corpus Christi. C'est au 13 vents, c'est jusqu'à vendredi prochain. Alors, le vendredi, c'est à 20h30, le samedi à 19h, le mardi à 19h, le mercredi à 20h30, le jeudi à 19h et le vendredi à 20h30.
Ah bon.
Je vais vous laisser citer le nom des comédiens.
Alors,
de mémoire.
Par ordre, donc Marianne Bassler, Sophie Tellier, qui jouent donc les deux personnages clés de cette histoire, les deux destins de femmes. Tania, ici présente, qui joue un personnage qu'on voit, enfin bon, qui, voilà. Je vais citer les filles, donc je vais me citer, Annick Le Goff. Les garçons, c'est Bernard Bloch, qui joue Bertolt Brecht. Et un grand spécialiste du cinéma en première partie qui s'appelle Ramu. Ensuite, il y a Brice Hilaret.
Et qui joue Richard Emmerich. Oui.
Et puis Julien Ball, bien sûr.
Julien Ball,
qui joue ce jeune homme étrange.
Voilà. Bah, il me reste à vous remercier de nous avoir
accompagnés. Et la mise en scène.
Et la mise en scène de Jacques
Lassalle. Qui arrive quand même
et
à
le décor.
Que ce spectacle qui pourrait être simplement didactique, pédagogique,
ah oui. Il en a fait
est
un
extrêmement
vrai...
vivant, parce que c'est un fan de cinéma aussi, Jacques.
Ça se sent. On va se quitter avec un Brecht, justement, avec une chanson. Je vais donner le titre en français, parce que je ne vais pas me lancer dans l'allemand. Chanson d'une fille de joie, c'est chanté par Gisela May.
Lied eines Freudenmädchens. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches habe ich doch verarmt. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kargt. Schließlich geht ja jeder Vorrat mal zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und auch wenn man gut das Handeln lernt auf der Liebesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, wird doch niemals leicht. Nun, es wird erreicht, doch man wird auch älter unterdes. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?
Vous écoutez bien ?
Divergence.
Alors, commençons.
Il ne suffit pas d'avoir une idée. Encore faut-il que cette idée nous hait, nous occupe, nous hante, nous devienne insupportable et encombrante pour que nous l'expulsions et qu'elle se mette à vivre d'une existence qui lui soit propre. Alors, il n'est pas rare qu'elle se retourne contre nous.
I'm in Chinatown, but I'm in filing mode. Please, take it off. Please, take it off.
Allez. Divergence FM, le 93.9. Vous êtes toujours dans l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle du théâtre en direct toutes les semaines. Nouveau plateau, nous allons maintenant parler de Shakespeare, un spectacle qui se donne au à Pierre Tabar, au théâtre Pierre Tabar. Il s'agit de La Nuit des Rois ou ce que vous voudrez. Alors je vais laisser les invités se présenter parce que je ne connais pas tous les noms. Je sais que la mise en scène est de Aurélia González. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse présenter les uns et les autres.
Alors je ne suis pas venue toute seule, je suis venue avec trois acteurs qui jouent les personnages de Toby, Andrew et Maria. Et donc Toby est joué par Harry Grange, Andrew par Julien Meynier et Maria par Marie Robert.
Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors La Nuit des Rois, il s'agit donc d'une comédie de Shakespeare. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une mise en scène de... Parce que les pièces de Shakespeare, c'est toujours un petit peu des monstres, avec beaucoup, beaucoup de personnages, de bruit et de fureur. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une mise en scène de La Nuit des Rois?
Il se trouve que quand je faisais du théâtre étant plus jeune, enfin étant adolescente, j'étais dans une troupe qui faisait exclusivement du Shakespeare, et c'est la première pièce que j'ai vue de Shakespeare qui m'a donc assez marquée, même si j'avoue que la première fois j'ai rien compris à l'histoire. Plus tard, je l'ai rejouée dans plusieurs versions, d'ailleurs je jouais le rôle de Maria à l'époque, et du coup depuis ça m'a jamais quittée. Entre-temps, je suis venue à Montpellier faire des études de théâtre au conservatoire, etc. Et ça, c'était juste une obsession, cette pièce-là, parce que c'est une comédie assez grinçante. Et le fait qu'il y ait de nombreux personnages, c'est vrai que ça peut faire peur, mais personnellement, j'adore ça, voir des pièces avec des pièces chorales avec un bon groupe de gens qui nous emportent dans leur histoire.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'histoire ? Il s'agit, comme toujours dans Shakespeare, donc il y a une intrigue amoureuse, et il y a des travestissements, des quiproquos... C'est un peu difficile à résumer.
C'est difficile à résumer et pourtant j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit compréhensible de tous. Donc je vous avertis que le résumé est plus compliqué que la réalité du spectacle, je pense. Donc la base de l'histoire se passe à travers un naufrage qui sépare deux frères jumeaux, Viola et Sébastien, frères et sœurs jumeaux. À partir de ça, Viola se décide de se travestir en homme pour... non seulement parce qu'elle n'a plus de protection vis-à-vis de la société, et puis pour essayer de séduire le duc Orsino. Il se trouve que le duc Orsino est amoureux de la comtesse Olivia, qui ne l'aime pas, qui est en deuil. Donc il pousse son nouveau page, qui est Viola travestie en homme, du nom maintenant de Cesario, à aller plaider sa cause auprès d'Olivia. Mais évidemment, Olivia tombe amoureuse de Cesario, qui est en réalité une femme. Et autour de ça, par exemple, on a ici présent Toby, qui est le cousin d'Olivia, qui est juste un bout en train extrêmement fêtard. Il y a le personnage de Maria, qui est sa suivante, et il y a une histoire d'amour entre eux. Il y a aussi le personnage d'Andrew, qui est l'ami, l'acolyte de Toby, qui cherche à séduire Olivia. Bon, beaucoup de toutes les intrigues tournent autour du personnage de la comtesse, Olivia. Mmh. Et il y a aussi le personnage de Malvolio qu'on persécute assez vite, qui est l'intendant d'Olivia.
Il est très drôle, lui. Il est très drôle.
Oui.
Et c'est vrai qu'il en voit toutes les couleurs, lui.
Exactement.
Alors, je vais me tourner maintenant vers les comédiens. D'abord, je voudrais vous féliciter pour la belle énergie dont vous faites montre dans ce spectacle. Alors, comment vous avez-vous abordé cette pièce de Shakespeare avec toute l'énergie dont vous faites montre pendant le spectacle ? Qui veut prendre la parole ?
Julien, je te laisse.
C'est sympa. Comment on abordait, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, d'abord avec le texte. Est-ce qu'il y a eu des coupures dans le texte ? Comment vous avez abordé votre personnage ? Comment ça s'est passé au niveau de la mise en scène avec la metteur en scène ?
Alors, en fait, on a passé bien un an à mettre en scène donc, ce spectacle, l'année dernière. Il y a eu des coupes, oui. En fait, Aurélia, avec son ancien professeur d'université, donc Paul Valéry, avait déjà fait une retraduction du texte, c'est ça ?
C'était un ancien professeur, mais à l'époque du collège, donc ça.
Ah, du collège, je confonds tout. Et du coup, elle a un peu copié ce qu'avait fait son professeur, puis ensuite elle a refait des coupes, elle a réécrit aussi par-dessus, parce que c'est super long, il y a plein de personnages qui ont été supprimés, parce que
ça c'est...
sinon ça dure des heures et des heures.
Shakespeare, une pièce de Shakespeare, ça dure 3h30.
Voilà, ouais. Donc voilà, et puis à partir de ça, on a tous lu notre texte, on s'est fait beaucoup d'italienne avant de commencer à jouer, et puis c'est parti, l'aventure est partie de là, et voilà, on répétait toutes les semaines.
Et c'est un texte où il y a beaucoup de musique aussi, la musique est très présente.
Oui, c'est un parti pris. Les premiers mots du texte sont « Si c'est de musique que l'amour se nourrit, continuez ». Et il se trouve qu'il y a aussi le personnage du fou dont je n'ai pas parlé, que j'ai essayé d'en faire comme une espèce de relais, d'intermédiaire à la musique. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, la musique en général, la musique dans le spectacle. Et puis je voulais avant tout que ce soit un spectacle rythmé et vivant. Du coup, pour certains, ça paraît trop, mais c'est un vrai parti pris que ce soit un spectacle musical.
Ça commence d'ailleurs par une scène de Bacchanal. Vous pouvez parler de la première scène qui est absolument hallucinante de Bacchanal, qui est magnifiquement orchestrée d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui doit être millimétré.
Oui, ça c'est gentil, parce que c'est un long travail. Et chaque soir, on y pense encore, on essaie de l'améliorer, de la rendre encore plus claire, même si, comme vous dites, c'est une scène de Bacchanal, enfin d'orgie. Alors pourquoi cette scène ? On y voit donc une fête, mais comme je racontais dans le résumé de l'histoire, la pièce commence par une tempête. Et donc, vu que le parti pris aussi, c'était de mettre toute la pièce dans une ambiance très, très décadente, j'ai décidé de transformer cette tempête en fête et qu'elle soit visible. Donc, tous les personnages sont présents et on les voit vivre déjà, enfin, très vite, toutes les interactions qui vont après être mises en place dans le spectacle.
Robin, tu n'as pas encore dit ton impression.
Non, mais moi, c'était une mise en scène qui m'a beaucoup surpris. Alors parce que j'avais pas d'informations, donc je suis venu comme ça et je m'attendais à trouver une mise en scène de Shakespeare qui soit beaucoup plus classique, et donc du coup j'ai vu ce débordement d'énergie dès le début de la première scène. Et alors donc du coup c'est une fête qui est assez moderne, qui est très contemporaine. On a l'impression de se retrouver dans des boîtes de nuit. Du coup il y a un lien comme ça entre le passé et le présent. Et mais pourquoi cette représentation précisément du coup de ce type de fête avec un alcool contemporain ? Qu'est-ce que vous avez voulu soit mettre en valeur, soit dénoncer ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool dans le début. Ouais. Hein.
Ben, comme je disais, quand on est metteur en scène, on a forcément des idées et des envies d'ambiance. Et donc là, moi, je suis partie de la décadence et de l'ivresse. Donc il s'agissait d'essayer d'aller au bout de ça. Et c'est vrai que l'effet que ça fait aux gens, c'est qui voit un spectacle, voilà, un Shakespeare contemporain, mais de mon côté, j'ai jamais eu l'envie de faire un spectacle contemporain, mais un spectacle proche de nous. Et il se trouve que tous les acteurs ont entre 20 et 30 ans, pas plus. Donc il s'agissait de se servir de ce qu'on est nous, de l'ambiance dans laquelle on vit, pour essayer de montrer que ce que vivent les personnages est complètement d'actualité et universel.
Et vous disiez, c'est un spectacle qui tourne déjà depuis un an ?
Ouais.
Et vous avez des retours de spectateurs est-ce qu'il y a des gens complètement surpris de tout le début de la scène d'orgie? Quels sont les retours que vous en avez?
Ils sont complètement mitigés, c'est-à-dire soit c'est presque violent.
C'est presque trash des fois.
Ouais, c'est presque trash, c'est le mot. Et en même temps, c'est une volonté de ma part que cette fête dégénère, et parce qu'à la base, c'est une tempête. Donc, que les acteurs, enfin, les personnages, pardon, et donc le public soient submergés par tout ce qui s'y passe. Et soit ça, soit d'autres gens apprécient complètement et voient dès le début, enfin, comprennent dès le début que toutes les interactions qu'il y a entre les gens. Alors, du coup, on continue notre bonhomme de chemin avec ce parti pris et cette fête. Mais c'est vrai que les avis sont complètement mitigés et partagés.
Est-ce que ce serait possible maintenant d'avoir, pour nous donner une idée, un petit extrait du spectacle ? Comme je
Absolument.
Vois que nous avons quatre comédiens autour de la table.
Absolument.
On va redistribuer les micros.
Alors, est-ce que je vous situe ce petit moment que...
Situé.
Bon, on est au début de la pièce, en fait, donc vous allez assez vite comprendre, avec le personnage de Toby, de Maria et d'Andrew. Voilà, à vous.
Ah, oh, sœur Toby, écoutez-moi. Rentrez plus tôt.
Madame, votre cousine en a assez de votre raffut au cœur de la nuit.
Reporte-lui cette leçon, elle me l'a déjà servie.
Faites un effort. Essayez de vous borner aux règles d'une honnête tenue.
Me borner ? Je ne bornerai jamais autre chose qu'à mes propres bornes. Quant à ma tenue, ces habits sont très bien pour boire.
Le vin sera votre perte, et celle de ce chevalier que vous avez amené pour qu'il courtise madame.
Qui ? Ce Randro ?
Oui, lui.
Il joue de la viole de gambe, parle trois ou quatre langues sans livre. Ah, il a tous les dons de la nature.
Ça, pour être nature, il est nature. Il est fou. Et comme si ça ne suffisait pas, sans cesse, il cherche querelle. Heureusement, c'est un lâche. Sinon, s'il se battait, il serait vite au fond d'un trou.
Ah ouais ? Et qui est-ce qui dit ça ?
Ceux qui disent qu'ils se saoulent tous les soirs avec vous.
Eh oh, du calme ! On boit à la santé de ma cousine. Et je boirai à sa santé tant que j'aurai un gosier et qu'il y aura du vin à porter. Et tous ceux qui ne veulent pas boire à la santé de ma cousine jusqu'à se faire péter la cervelle sont des minables et des fauchetons. Vu, ma caille ? Allez, du vin. Voici ce Randro.
Toby, mon bon Toby. Comment ça va, mon bon Toby? Bonjour, jolie petite pintade.
Bonjour, monsieur.
Accoste, mon bon Andrew, accoste.
Quoi?
La femme de chambre de ma nièce.
Ah, dites-moi, mademoiselle Acoste, ça vous dirait qu'on fasse un peu mieux connaissance?
Je m'appelle Maria, monsieur.
Mademoiselle Maria Acoste, ma toute belle.
Mais non, tu n'y es pas, chevalier. Acoste, c'est pas son nom. Je voulais dire attaque, courtise, embrasse, enfin tout ça, quoi.
Et franchement, là, devant tout cela.
Adieu, messieurs.
Ne la laisse pas partir comme ça, tu pourras plus jamais dresser
madame,
ton
ne
arme.
Pas comme ça, je pourrai plus jamais dresser mon arme.
Enchaîne.
Ma belle, craignez-vous d'être entre deux...
Mauvaise...
mains?
Monsieur... Je ne suis entre les mains de personne.
Et pourquoi cela, mon cœur? Cette plaisanterie n'est-elle pas un peu sèche?
Humide, monsieur. Humide. Comme vous, en ce moment.
Eh oh, je pense que je peux avoir d'humide. C'est pas pour quelques pots que j'ai vidé. Et puis c'est la première fois qu'on se moque de moi sans que j'y comprenne rien. Avez-vous tant d'esprit que cela, mamie?
Oui, monsieur. Et jusqu'au bout des doigts.
Allez, bois un coup, chevalier. C'est raté. J'avais jamais vu quelqu'un te faire mordre le tapis comme ça.
Si, moi. Une fois ou deux que j'avais bu un coup de trop. J'ai parfois l'impression d'avoir pas plus d'esprit qu'un chrétien ou que tout un chacun. C'est peut-être de manger trop de viande rouge qui m'alourdit l'esprit.
Si tu le dis.
Non. Si. Non. Si j'en étais sûr, je m'interdirais le bœuf. Demain, je retourne chez moi, Sir Toby.
Comment ça? Perché caro mio?
Ah, oh, si seulement j'avais étudié les langues au lieu de perdre mon temps à la danse, au combat d'ours, à l'escrime. Si seulement j'avais étudié les arts.
Ça t'aurait fait une belle jambe.
Qu'est-ce qu'elle a, ma jambe?
Mais non, mais elle est parfaite. Je dis juste que ça t'aurait fait chauffer la tête et peut-être bien friser les cheveux.
Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux?
Regarde ça, des vraies baguettes de tambour.
Peut-être, mais ça me va bien.
Ouais, très bien, ouais. On dirait du chanvre sur une quenouille. Ah, peut-être qu'un beau jour, une bonne femme te mettra entre ses jambes. Pour te filer.
Je pars demain. Ta cousine refuse de se montrer. Et 10 contre 1 que si elle me voyait, elle ne voudrait pas de moi. Le duc lui-même lui fait la cour pour rien.
Mais elle en a rien à faire du duc. Jamais elle se mariera au-dessus de sa condition. Ni avec un plus jeune, ni avec un plus sage. Ta-ra-ta-ta. Tant qu'il y a de la vie, il y a de...
L'alcool?
De l'espoir. Ah.
Bon, restons un mois de plus.
Bravo, bravo, bravo à tous pour cet extrait. Je sais que c'est pas facile, c'est tout à fait différent devant un micro que sur les plans.
C'est pas évident.
Il y a toute la gestuelle qui manque. Mais allez voir le spectacle, tout est comme ça. Tout est comme ça. On n'a pas dit un mot sur la compagnie. La compagnie s'appelle 6 pieds sous terre, 2 doigts au-dessus. Vous pouvez nous dire un petit mot sur la compagnie rapidement?
Alors, c'est une compagnie qu'on a montée en sortant du conservatoire de Montpellier. Mais qui s'est assez vite transformé en le collectif Golem.
Pourquoi le Golem?
Pourquoi le Golem?
Parce que moi, je connaissais un roman qui s'appelait Le Golem. Est-ce que ça a à voir avec ça?
Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas lu. Mais pour cette idée de matière constamment en travail, je pense. Et donc, bah, du coup, vu qu'on a commencé à monter cette pièce sous la compagnie 6 pieds sous terre de dos au-dessus, on ne la renie pas. Mais maintenant, c'est le collectif Golem qui porte ce projet.
On va rappeler qu'il s'agit donc de La Nuit des Rois ou Ce que vous voudrez. Donc c'est une adaptation de Shakespeare et ça se passe au théâtre Pierre Tabar. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires et les dates?
Alors, nous sommes vendredi, donc cela joue ce soir à 19h, demain soir samedi à 19h et dimanche à 19h. Et c'est a priori les dernières, donc venez.
Voilà, donc merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Et comme ça finit par 2 mariages, le spectacle, et peut-être 3, j'ai décidé, et puis comme on parle maintenant de mariage pour tous, j'ai décidé de vous mettre la marche nuptiale, le songe d'une nuit d'été, Félix Mendelssohn-Bartholdy. Et oui, nous allons quitter la marche nuptiale de Mendelssohn Bartholdy, le extrait du Songe d'une nuit d'été. C'était Georges Zell à la baguette avec l'orchestre de Cleveland. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Et puisque nous parlions mariage, nous allons parler maintenant adultère, qui en est un peu sa corollaire. Il s'agit maintenant de Faisons un rêve, une pièce de Sacha Guitry, qui se joue au théâtre Pierre Tabar, juste après le spectacle dont on vient de parler précédemment. Donc au théâtre Pierre Tabar, j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Arévic Martirosian, je savais que j'allais me planter, et Gérald Papazian. Bonjour, merci à vous d'être là avec nous. Alors, Faisons un rêve, c'est un Sacha Guitry, un autre monstre sacré. On passe de Shakespeare à Sacha Guitry, on parlait de Brecht tout à l'heure, donc il n'y a que des monstres sacrés ce matin sur Divergence FM. Faisons un rêve, donc une pièce courte de Sacha Guitry avec deux personnages. Écrite en 1916.
Oui.
Donc il s'agit d'une... Il n'y a pas le triplé, le mari, la femme, l'amant. Là, il s'agit de l'amant et de la maîtresse.
Voilà, c'est une adaptation que j'ai faite. Au fond, il y a quatre personnages. Il y a aussi le majordome ou le
qu'on ne voit chambre, pas.
Donc, dans notre spectacle, on ne le voit pas. Et il y a le mari. Et donc, j'ai fait une adaptation pour deux personnages. La femme et l'amant.
Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu le contexte ?
Eh bien, c'est l'histoire de l'amant qui arrive à séduire une femme mariée et ils vont passer une nuit ensemble, mais enfin, pas une nuit, quelques heures. Et puis, son mari est parti après un boulot ou quelque chose, il va rentrer tard et elle doit rentrer avant lui. Mais malheureusement, il se réveille le matin... À 8h du matin, on se rend compte.
Ils ont passé la nuit ensemble.
Et l'histoire, finalement, c'est que lui, il propose de se marier, qu'elle divorce, puisque, bon. Et à la fin, il dit nous avons toute la vie devant nous, mais des choses quand s'arrangent, et il y a cette phrase qui résume la pièce: nous avons mieux que toute la vie, nous avons deux jours. C'est un peu ça.
Alors c'est une pièce donc, que je le disais, qui a été écrite en 1916. Moi je ne connaissais pas la pièce, j'ai lu pas mal de Guitry, mais celle-là, je crois qu'elle est relativement été peu jouée.
Non, c'est assez joué. Récemment, il y avait Pierre Arditi, fait au théâtre,
c'est
etc.
Vrai.
Plusieurs fois. Il y a même un film de Sacha Guitry dans les années 30.
C'est vrai que Sacha Guitry était cinéaste aussi, on a tendance à l'oublier, mais était cinéaste.
Oui, oui.
Il avait plein de cordes à son arc. Lui, il était directeur de théâtre, il était donc auteur, c'était il était comédien,
vrai
il était réalisateur,
artiste, oui.
Issu d'une famille de théâtre.
Oui, oui, oui.
Alors pourquoi avoir monté cette pièce précisément ?
C'était... J'aime bien la pièce.
Elle pétille d'esprit, il faut
drôle,
dire.
C'est bien écrit. C'était un défi pour moi. Je me suis dit, est-ce que moi, étant donné que je ne suis pas français, est-ce que je pourrais faire un Guitry ? Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup d'autres choses, des pièces arméniennes, des Tchekhov, du Shakespeare, etc. Mais Guitry, c'est vraiment très typique. Et donc voilà. Et puis le pari, c'était d'essayer de voir si on pouvait ramener Guitry, nous s'approcher un peu à notre époque, un peu. Peut-être pas tout à fait, les valeurs, donc les vertus, etc. de cette époque, et d'ajouter un acte qui n'a presque jamais été joué.
C'est le
quatrième acte.
Le quatrième acte, voilà, oui.
Où Guitry donne la parole à la femme, ce qui est un peu rare.
Qui ajoute toute la modernité d'ailleurs au texte. Mais d'ailleurs, dans le film, le quatrième acte n'était pas dans le film.
Non.
Et dans la plupart des représentations, il n'est jamais.
Non.
Il est presque jamais joué, le quatrième acte.
Oui, c'est ça. Et pourquoi ? C'est bizarre.
Parce que je pense que les gens restent dans le cadre de Boulevard. Mm-hmm. Ils veulent que ça reste...
S'arrêter au troisième acte, ça reste toujours un côté plus bourgeois,
c'est joyeux,
peut-être.
C'est joyeux, on rigole, tout va bien. Mais c'est vrai que le quatrième acte ajoute une autre dimension à la pièce. Et on entend pour une fois la femme qui n'est pas finalement bête, mm-hmm. on va dire.
Elle prend les choses en main même au quatrième acte.
Oui, elle prend les choses en main. Je pense que la femme toujours prend les choses en main. Mm-hmm. Et il y avait aussi une opinion comme ça. On nous a dit que peut-être c'est Sacha Guitry qui parle à travers cette femme. Mm-hmm. Parce qu'il connaît très bien l'adultère, il connaît très bien tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, parce qu'il dit très, très, C'est très nuancé, c'est très concret tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle révolte dans cet adultère.
C'est très féminine, c'est vraiment comme si c'était écrit par une femme.
Oui, c'est très féminin, exactement.
Mm-hmm. Robin, toi, c'était la première fois que tu voyais un Guitry, si je ne me trompe pas.
C'est ça, la première fois. Et ben, il y a quelque chose qui manque dans ce que vous dites, c'est que c'est une pièce très drôle.
C'est une pièce très drôle,
et le texte, moi je me suis régalé du texte, c'était une pièce qui était pétillante, et le personnage de l'avocat, il est extraordinaire, vraiment c'est un personnage qui est insaisissable, de l'avocat, et parce qu'il joue des doubles jeux. Alors au début il la courtise d'une façon mais très très lourde, où il y a toute une scène marrante où il lui fait croire qu'il va se laver les mains pendant un temps indéfinissable en attendant que le mari parte. Et puis après, il a un côté très léger où le lendemain, il se réveille et puis il est d'une humeur extraordinaire. Il y a un contraste qui va se jouer entre les deux personnages. Et alors lui, il devient totalement débonnaire. Et il est là, il est léger, il propose du café. Lui, il est content, il est absolument ravi de ce qui lui arrive.
Il beurre les tartines.
Oui, c'est ça, qui beurre les tartines. Alors que du coup, la femme, elle est totalement angoissée. Et puis... cette humeur va être contagieuse. Petit à petit, il va arriver à la rassurer. Et c'est étonnant parce qu'il arrive à nous rassurer, nous aussi. et ça, c'est vraiment... c'est fort, cette contagion de... Et donc, voilà, un personnage qui a plein de facettes et qui, moi, m'a charmé.
Ouais. Donc, Guitry, pour toi, c'est une belle découverte.
Absolument. Hier soir.
On va vous demander, si c'est possible, pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe sur le plateau, si vous pouvez nous faire un petit extrait.
Très bien, on pourrait presque le début.
Ben voilà.
Voilà. Bonjour.
Comment, vous êtes là?
Non.
Comment non?
Non, enfin oui, c'est-à-dire que je suis là dans la salle de bain où je fume depuis une demi-heure et comme l'air est devenu irrespirable, je sors. Bonjour.
Vous étiez là?
Oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là. Et je vous entendais, vous et votre mari, car on entend très bien de la salle de bain.
Mais hier soir, vous nous avez demandé de passer chez vous, mon mari et moi, à 4h moins un quart. Votre valet de chambre nous a reçus en disant que vous étiez en retard.
Vous avez une robe ravissante.
Merci. Eh bien, je suis navrée, mais mon mari ne vous a pas attendu. Il avait un rendez-vous avec un... Enfin, voyez comment...
Je sais, j'ai tout entendu. Et tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux, mon Dieu, de penser que vous aimez un peu les choses qui sont chez moi. J'ai entendu ça aussi. Ah, et puis que je vous dise aussi que vous aviez raison de supposer que je ne suis plus avec la petite Martini, mademoiselle Martini. Et moi, c'est complètement fini. C'était une femme...
N'en dites pas de mal.
Non. J'en dis pas de mal. Non. Elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais. Maintenant, elle a un grand type espagnol. Enfin, en tout cas, c'est fini. Avec elle, c'est fini. Ah.
Voulez-vous me dire, je vous prie, pourquoi vous vous cachiez dans votre salle de bain?
Oh, mais je ne me cachais pas dans ma salle de bain. Non. J'étais en train de m'y laver les mains dans la salle de bain.
Votre valet de chambre nous a dit que vous n'étiez pas encore rentré.
Le témoin s'est trompé. Ou alors, il ne m'avait pas entendu rentrer. En tout cas, j'étais vraiment rentré puisque la salle de bain n'a qu'une porte, celle-là. Ma parole, j'étais en train de me laver les mains, ce qui n'est ni répréhensible ni injurieux pour qui que ce soit. Lorsque vous êtes entré avec votre mari, j'ai continué à me laver les mains. Je ne pouvais pas arriver avec les mains trempées. Tout en m'essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Avez-vous remarqué comment on tend bien l'oreille en s'essuyant les mains? C'est presque instinctif. Vous savez, j'ai tendu l'oreille afin de me rendre compte que vous ne vous disputiez pas, parce que moi j'ai horreur d'interrompre une dispute. C'est vrai, ça empêche les choses de s'envenimer.
Pourquoi nous serions-nous disputés?
Mais vous êtes mariés.
Vous auriez pu rentrer puisque nous ne disputions pas.
Oui, seulement, j'avais les mains humides.
Ah, et vous avez horreur des mains humides?
Peut-être encore plus que des mains mouillées. Mais vous croyez, n'est-ce pas, que tout ce que je viens de vous dire là...
Oui.
Vous croyez que j'étais là en train de me laver les mains dans ma salle de bain?
Oui.
Oh.
Quoi?
Vous ne croyez pas ça?
Mais si.
Mais il ne faut pas croire ça.
Pourquoi?
Mais parce que c'est complètement faux.
Comment c'est faux?
Mais oui. Et voici maintenant la vérité.
Merci beaucoup pour ce petit extrait tout à fait pétillant. Qui résume bien un peu l'ambiance de la pièce, avec l'esprit donc de l'amant, et puis en même temps la l'attitude de celle qui n'est pas encore la maîtresse, mais qui va le devenir. Oui. Il y a une scène merveilleuse, d'ailleurs, je crois que c'est la deuxième, où il attend la maîtresse, et la maîtresse qui est en retard, qui est vraiment un moment d'anthologie absolument incroyable. Alors, c'était la première il y a pas longtemps, c'était il y a deux
avant-hier,
jours. Non. Avant-hier.
Oui, hier c'était la deuxième, ouais.
Nous, on était à la deuxième, donc. On a vraiment beaucoup, beaucoup les uns et les autres apprécié. Est-ce que c'est un spectacle qui va tourner après Parce que là, pour l'instant, il a Pierre Tabar.
Mais
ça serait bien que, ça serait bien que ça tourne sur Montpellier et la région, parce que c'est vrai qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu Guitry jouer sur Montpellier. Hein. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je n'ai jamais vu un Guitry monter à Montpellier.
Il y a tout un monde qui snob un peu et qui considère que c'était aussi ça. Je voulais voir si je pouvais monter un Guitry d'une manière où ça soit acceptable, même par un public qui n'aime pas Guitry nécessairement. Et alors on va voir si ça donne, j'ai pu donner une autre dimension ou pas.
Mais c'est vrai que c'est du théâtre de boulevard, mais c'est quand même un théâtre de boulevard tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ne serait-ce que dans nos lamentables chaînes de télévision, puisque là, c'est quand même le texte qui est privilégié plutôt que la situation. Normalement, c'est le théâtre de boulevard, en résumé, c'est l'amant dans le placard, etc. Vite, cache-toi vite dans le placard. Là, c'est pas du tout ça. C'est un jeu sur le verbe, sur la séduction, qui est tout à fait pétillant.
Et je peux vous dire que le texte, comme vous dites, l'écriture de Sacha Guitry est très, n'est pas simple. Mmh. Il y a des tournures qui sont plus ou moins compliquées, on va dire, mais c'est de là aussi vient toute la beauté qu'on découvre, que ça nous donne envie. C'est très agréable parce que ça nous fait rêver, ça nous fait voyager aussi dans son temps.
Mais comme Guitry était lui-même un comédien, il écrit vraiment pour des comédiens.
Ah oui.
C'est-à-dire que le verbe est là pour qu'il y ait des petits effets, pour qu'on sente vraiment le bon mot qui arrive.
Oui,
parce que c'est truffé de bons mots, d'expressions, et ça, c'est ce qui caractérise. Ah oui, absolument.
Il y a beaucoup d'esprit, bien sûr.
Oui, parce que la situation peut nous paraître quand même lointaine. Moi, elle m'a paru très lointaine vu de mon jeune âge et les relations entre les deux personnages, l'attitude de la femme. Pour moi, c'était des choses qui étaient un peu désuètes. Mais l'humour raccroche.
Quand il y a
cette situation et du coup on se reconnaît dans certains jeux de mots, dans certaines pointes qui se lancent et donc c'est ça qui fait là.
Mais il y a quand même une dimension humaine, l'attente de l'amant qui attend.
Je crois que c'est ma scène préférée,
etc. ça je crois que c'est universel et c'est pour tous les temps.
Oui.
Quand il y a quelqu'un qui attend avec impatience la femme, est-ce qu'il va venir ou pas? Je crois que ça, c'est, n'est-ce pas?
Absolument.
Éternel.
On disait que c'est une pièce qui était écrite en 1916, que vous avez transposée dans les années 50.
Oui, j'ai essayé de m'approcher à notre époque, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, justement, comme vous venez de dire, le côté, les valeurs morales qui sont... Je me suis dit que je ne peux pas aller au-delà de 1968, parce que tout changé, tout a basculé avec les femmes, etc. Aujourd'hui, une femme ne serait pas autant dans cet état d'affolement, parce qu'elle est couchée, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Donc j'ai dit, bon, je m'arrête dans les années 50.
Vous avez bien fait, oui.
Mais comme disait Guitry, je suis contre les femmes, tout contre. Voilà, on va rappeler peut-être que c'est donc au théâtre Pierre Tabar. Et est-ce que vous avez les dates? Attendez, je dois avoir les dates et les horaires. Donc ce soir, ça se joue à quelle heure?
À 9h du soir, à
21h.
Ah oui, donc c'est du mercredi au samedi 21h et le dimanche c'est à 17h. Et la dernière c'est donc dimanche 14 octobre à 17h.
Donc on n'a que 3 ce soir, demain et après-demain.
Mais je vous souhaite que le spectacle tourne, je vous souhaite que plein de public vienne le voir parce que c'est vraiment très très drôle.
Oui.
Et pour les jeunes générations qui ne connaissent pas Guitry, c'est quelque chose à découvrir. Voilà. Vendredi Théâtre touche à sa fin. Alors, pour la fin, j'ai choisi une petite musique. Il s'agit de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'élégance, qui ne me semble pas sans rapport avec le spectacle. Il s'agit de Jean Sablon, qui a été le premier grand crooner français. Et d'ailleurs, la chanson que j'ai choisie, on a la musique dans le spectacle. Il s'agit de J'attendrai, qui avait été créée en 1938 par Rina Ketty et qui a été repris en 1939 par Jean Sablon. Merci encore de nous avoir accompagnés pour ce Vendredi Théâtre. Merci à Robin de m'avoir accompagné. Merci à Christopher qui n'a pas dit un mot mais qui va bientôt devenir chroniqueur de l'émission. Merci à Bruno Bertrand, notre magicien de la technique. Et Vendredi Théâtre, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour couvrir toute l'actualité théâtrale sur Montpellier, sur Divergence FM, le 93.9.
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Reviens bien vite. Les jours sont froids et sans limite, les nuits sans toi. Quand on se quitte, on oublie tout, mais revenir est si doux. Si ma tristesse peut t'émouvoir, avec ivresse, reviens un soir et dans mes bras. Tout s'oubliera. J'attendrai toujours ton retour. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement.